Je pense qu'après le passage de notre sœur Lydia Yeager, le week-end passé au milieu de nous, tout le monde, presque en tout cas tous ceux qui étaient là, savent ce que c'est que l'apologétique, ce que c'est qu'un apologète, une apologète maintenant, n'est-ce pas? C'est vrai qu'au départ le mot apparemment posait des problèmes, mais je pense que maintenant ce n'est plus le cas, en tout cas pour ceux qui étaient là. Pour ceux qui n'étaient pas là, l'apologétique est la discipline qui réfléchit aux arguments qui valident la foi chrétienne. Ça vient du petit mot grec apologia. Ce petit mot qui signifie défense, plaidoirie, apologie. L'apologétique est donc l'étude que les chrétiens font des apologies, des vérités essentielles proclamées par le christianisme, et ce, pour défendre, pour démontrer la crédibilité de la foi chrétienne. Or, j'ai choisi un passage biblique pour notre méditation de ce matin qui nous invite, nous aussi, chacun de nous, à être des apologètes. Peut-être pas au même niveau que notre sœur Lydia Yeager, n'est-ce pas, qui a un doctorat en philosophie, une licence en théologie et plein d'autres diplômes, mais en tout cas à être des chrétiens capables de donner des explications raisonnées et raisonnables de l'espérance qui les anime. Et ce passage, nous le trouvons dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3, les versets 15 à 17. En Pierre, chapitre 3, versets 15 à 17, l'apôtre Pierre écrit aux chrétiens d'Asie mineure, et il dit ceci. Je lis ce passage dans la traduction « Parole de vie ». N'ayez pas peur des gens et ne vous laissez pas troubler, mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint, il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications, mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience pure. Alors quand des gens vous accusent faussement sur un point, quand ils vous insultent parce que vous vous conduisez en chrétien, ils seront couverts de honte. Oui, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si Dieu veut cela, plutôt que de souffrir en faisant le mal. Soyez toujours prêts à donner des explications. Prêts pour l'apologie de l'Évangile. Voilà qui est clair, n'est-ce pas? En tant que chrétiens, nous sommes appelés à témoigner, nous sommes appelés à partager avec les autres ce qui anime notre vie chrétienne. Nous sommes appelés à expliquer, à dire les raisons que nous avons d'espérer. C'est en tout cas ce à quoi l'Écriture nous invite, c'est ce à quoi sans cesse elle revient en disant « Mais si vous avez une espérance, dites-la, dites-le, partagez-la avec les autres, rendez compte de votre espérance, l'espérance qui est en vous. » Car on le sait bien, l'espérance est quelque chose de fondamental, n'est-ce pas? Quelque chose d'essentiel dans la vie. C'est elle qui fait bouger les gens. C'est quand il espère que l'homme entreprend des choses et qu'il avance. L'autre jour, il y avait une émission à la télé dont le titre était « France, ta société déprime ». Et le constat qui était fait par les spécialistes des questions de société qui étaient sur le plateau, était qu'il y a pas mal de personnes dans notre société aujourd'hui en France qui n'espèrent plus rien, qui s'arrêtent au bord du chemin les bras croisés, qui ne veulent plus rien faire. Et à un certain moment, ils comparaient notre société française pessimiste à la société américaine optimiste. Et c'est vrai qu'il y a quelque temps, j'ai lu l'histoire d'un homme aux États-Unis dont le magasin avait été complètement ravagé par une catastrophe quelconque. Je ne me rappelle plus si c'était un incendie ou une tempête. Mais le lendemain, cet homme arrive devant son magasin, ou devant les décombres de son magasin, une table sur les bras. et avec une pancarte qui disait ceci: j'ai tout perdu sauf l'espoir, mon magasin est ouvert. En attendant que cet optimisme arrive ici chez nous en Europe, et notamment ici dans notre pays, la France, c'est dans notre société en panne d'espérance que nous sommes encouragés à montrer notre espérance et à en parler. Et cela nous conduit nécessairement à entrer dans le domaine de ce qu'on appelle l'apologétique. Car ceux qui nous entourent se posent des questions, comme nous nous sommes posés des questions, et peut-être nous nous posons encore des questions, n'est-ce pas? Des questions tout à fait honnêtes auxquelles nous devons essayer d'apporter des réponses, d'abord essayer de nous confronter nous-mêmes avec elles, pour après pouvoir essayer d'apporter des réponses à ceux qui nous demandent de l'espérance, la raison de notre espérance. Or, je trouve que ce passage de l'apôtre Pierre que nous venons de lire, même s'il a 2000 ans de distance par rapport à nous, reste quand même d'une grande actualité. Parce qu'il s'adresse à des chrétiens et des églises qui étaient à peu près dans la même situation que la nôtre aujourd'hui. Même si ces communautés de l'époque n'avaient ni les locaux, ni le confort, ni la liberté que nous avons aujourd'hui, elles vivaient dans un monde qui ressemble sensiblement au nôtre, un monde où l'évangile n'était pas majoritaire, où la morale était loin d'être ce à quoi on peut aspirer, où les conditions de vie étaient difficiles, un monde fait d'injustice, bref, un monde où il n'était pas du tout facile d'être chrétien. Donc ce passage est pour nous aussi aujourd'hui. Nous avons bien besoin de savoir comment témoigner, comment être le sel de la terre et la lumière du monde, comment annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans une société comme la nôtre. Or, ce qui est intéressant de voir dans ce passage, c'est que l'apôtre Pierre nous dit, non seulement qu'en tant que chrétien, nous devons le faire, mais il nous dit surtout comment nous devons nous y prendre. Et la première chose qu'il souligne, c'est que nous devons être toujours prêts. Soyez toujours prêts. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications. Les chrétiens doivent être toujours prêts pour l'apologie de l'évangile. Il y a pas mal de domaines professionnels où il faut être prêt à tout moment et à toute éventualité, n'est-ce pas? J'ai un frère aîné qui est médecin et les premières années de médecine, il a travaillé dans des services d'urgence à l'hôpital et il en a vu de toutes les couleurs. Et il fallait qu'il fasse face à toutes les situations parce que c'était lui le médecin de garde. Les pompiers doivent être toujours prêts à combattre le feu. C'est l'essence même de leur profession. Les militaires doivent toujours prêts à aller au combat. L'apôtre Pierre nous dit que nous, les chrétiens, nous aussi, nous devons toujours être prêts à rendre compte de notre espérance, toujours prêts à être interrogés, prêts à justifier, à expliquer le contenu de notre espérance. C'est peut-être une lapalissade que je vais dire, mais pour être prêt, il faut une préparation. Il faut une préparation préalable. Il faut une réflexion. Une réflexion quant à ce qui nous fait agir, quant à ce qui nous fait vivre en chrétien, ce qui nous fait croire, ce qui nous fait espérer. Il nous faut en effet réfléchir au contenu de notre foi et de notre espérance, au bien fondé de nos convictions, pour pouvoir ensuite l'expliquer à d'autres. Cela exige de notre part quelques efforts. Or, justement, l'apôtre Pierre nous fait comprendre pour que notre témoignage ait vraiment un impact sur les autres. Cette préparation doit se faire au moins à trois niveaux. D'abord, au niveau spirituel, être spirituellement prêt. Reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint, il est votre Seigneur, ou selon d'autres traductions, dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur, ou encore, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur. Il s'agit de la préparation spirituelle qui est absolument essentielle, fondamentale, c'est la condition sine qua non, n'est-ce pas, pour nous rendre aptes à communiquer aux autres l'espérance qui nous anime. Et cette préparation spirituelle est intimement liée à notre relation à Jésus-Christ, à notre relation avec le Christ, à la sanctification, la mise à part, la consécration de nos vies au Seigneur, à la soumission de nos vies au Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il soit réellement notre Seigneur, notre Maître, celui qui occupe la place, la première place, la place centrale de nos vies, celle qui dirige nos vies. Le cœur, ici, dans ce texte et dans la Bible, se réfère au siège non seulement de nos sentiments, de nos émotions, mais aussi de nos pensées. Autrement dit, tout notre être doit vivre dans la soumission à l'autorité de Jésus-Christ. Jésus disait « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Il s'agit donc d'abord de vivre avec le Seigneur, de vivre avec le Seigneur dans une relation dynamique et vitale avec lui, une relation qui permet au Seigneur, par son Saint-Esprit, de nous conduire, comme dit la Bible, dans toute la vérité, de nous aider à comprendre et à expliquer aux autres les raisons que nous avons d'espérer. Si le chrétien ne vit pas quotidiennement dans une relation authentique de communion avec son Sauveur et Seigneur, un chrétien qui ne cherche pas dans la Bible, la lecture de la Bible, la parole de Dieu, la nourriture nécessaire à sa vie spirituelle de chaque jour, un chrétien qui n'obéit pas à son maître dans les domaines les plus élémentaires de la vie chrétienne, ce chrétien-là ne peut prétendre être un bon apologète, un bon témoin de Jésus-Christ. Il n'est pas prêt à rendre compte de son espérance. Sanctifiez-le dans vos cœurs, adorez-le comme le saint, donnez-lui une place à part dans votre vie, et le reste suivra, nous dit l'apôtre Pierre ce matin. L'autre aspect important qui se dégage de ce passage concernant notre préparation a à voir avec nos relations sociales. Être socialement prêt. Ce passage parle de chrétiens qui vivent vraiment au sein de la société et qui ont des relations, certes parfois difficiles, avec les non-chrétiens, mais qui sont insérés dans la société. Pierre exhorte ces chrétiens à faire très attention à leur conduite, afin que celle-ci ne soit pas en contradiction avec ce qu'ils annoncent de leur bouche. N'ayez pas peur des gens et ne vous laissez pas troubler. Ayez une conscience pure. Alors quand des gens vous accusent faussement sur un point, quand ils vous insultent parce que vous vous conduisez un chrétien, ils seront couverts de honte. Oui, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si Dieu veut cela, plutôt que de souffrir en faisant le mal. Cela veut dire que nos gestes, nos attitudes, nos comportements, bref, l'image que nous donnons de notre vie chrétienne parle tellement fort que les gens n'écoutent notre discours que s'il est cohérent avec notre manière de vivre. Il ne faut pas que notre conduite discrédite aux yeux des non-chrétiens l'évangile que nous annonçons de notre bouche. Autrement dit, soyons conscients que notre vie et notre conduite parle beaucoup plus fort que nos belles paroles. Les non-chrétiens ont besoin de voir nos bonnes œuvres. Ils ont besoin de voir que l'espérance de l'Évangile a effectivement changé nos vies. Le premier Évangile que les gens lisent, ce n'est pas la Bible, c'est notre vie, c'est la vie des chrétiens. Si le chrétien n'est pas capable... Le texte parle de douceur et de respect. Si le chrétien n'est pas capable de douceur et de respect vis-à-vis de ses frères qu'il côtoie chaque dimanche, sera-t-il capable de douceur et de respect vis-à-vis des autres, de l'extérieur? Si le chrétien affirme que Christ est sa joie, mais il vit dans la société de manière triste, accablée, tête baissée. S'il dit avoir trouvé la paix en Jésus-Christ, mais il vit en conflit permanent avec les membres de sa famille, ses enfants, son épouse, son mari, avec les membres de son Église, peut-il vivre en paix avec ses collègues de travail? Peut-il convaincre les non-chrétiens qu'en Jésus-Christ, on peut réellement trouver la paix, la joie et le bonheur? L'apôtre Pierre nous exhorte à ne pas permettre que l'Évangile soit discrédité par notre conduite quotidienne. Parce que de toute façon, même lorsque notre conduite est bonne, les incrédules chercheront toujours à trouver des incohérences entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Que nos œuvres glorifient donc notre Père Céleste, disait Jésus. Car si les gens voient la trace de Jésus et de son Évangile dans nos vies, ils auront envie de connaître ce Jésus. S'ils voient que la lumière de l'Évangile brille en nous, dans nos vies, ceux qui sont dans les ténèbres auront envie de rejoindre la lumière. Troisièmement, nous devons être intellectuellement prêts. Si nous sommes prêts au niveau spirituel, et nous avons vu que cela est la base, l'essentiel, si nous sommes prêts au niveau social, dans nos relations, dans la société, alors n'oublions pas de nous préparer aussi au niveau intellectuel, prêts pour l'apologie de l'Évangile. Et nous avons tout ce qu'il faut pour être prêts. Nous avons tout ce qu'il faut pour être prêts. Pierre utilise ici le mot « apologia ». Apologie dans ce passage. Et il est en train de dire, soyez prêts pour l'apologie. Soyez prêts pour la défense de l'Évangile. Soyez prêts à rendre compte, à donner des raisons de votre expérience. À expliquer. Il ne s'agit pas de réciter quelques formules toutes faites que nous apprenons parfois dans nos églises, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de les lancer à l'emporte-pièce. Il ne s'agit pas de réciter quelques versets bibliques quand on veut évangéliser. Ce n'est pas ça. Ce texte nous invite à exprimer et à expliquer de manière crédible et pertinente ce qui nous fait espérer. Le terme qu'il emploie ici évoque la plaidoirie, le raisonnement, la démonstration, l'argumentation. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications. En clair, il dit qu'il y a un travail nécessaire à faire pour que notre réponse soit motivée, fondée, étayée. Il faut être prêt à expliquer sur quoi, sur qui et comment nous fondons notre espérance. Il faut être capable de dire ce que nous croyons, capable d'expliquer en quoi la présence du Christ dans nos vies transforme nos existences. En quoi cela change notre vision des choses et notamment de l'avenir qui semble sombre à beaucoup, n'est-ce pas? Pour cela, il nous faut bien sûr bien connaître la parole de Dieu, la Bible. L'apôtre Paul disait à Timothée, « Force-toi de te présenter devant Dieu un homme qui fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Pour cela, il faut lire la parole de Dieu, la méditer, l'étudier. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de le faire. Il y a des Bibles dans toutes les traductions, dans toutes les langues, n'est-ce pas? Pour cela, nous pouvons faire aussi appel, comme dit l'apôtre Paul, à des pasteurs, docteurs, à des enseignants qui existent dans nos églises. Ou, comme disait notre frère Simon, à des chercheurs comme Lydia Yeager, n'est-ce pas, qui consacrent leur vie à approfondir la parole de Dieu à la lumière aussi des sciences humaines qui existent. Parce qu'ils veulent comprendre la parole de Dieu et ils veulent l'expliquer de manière claire. Et notamment les sujets très difficiles, et nous avons vu qu'il y a des sujets difficiles, n'est-ce pas? C'est aussi nécessaire de connaître les gens, leur manière de réfléchir, leur centre d'intérêt, leurs problèmes, puisqu'il s'agit de partager avec eux le produit de nos recherches, de nos études, de la parole. La Bible nous dit que l'apôtre Paul se faisait tout à tous. Il se mettait à leur place chacun pour mieux les comprendre, pour mieux annoncer l'évangile. Quand on lit le Nouveau Testament, on remarque que la présentation de l'évangile ne se fait pas toujours de la même manière. Pas toujours de la même manière. Les premiers chrétiens tenaient toujours compte de la culture, du statut social, des difficultés, des besoins et des interrogations de leurs auditeurs. Or, aujourd'hui, souvent, la tendance est de venir donner des réponses aux gens, des réponses à des questions qu'ils ne se posent même pas. Quand ils témoignent à des juifs, ils essayent de démontrer par les Écritures que Jésus est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament qu'ils connaissaient bien. Quand ils témoignent à des intellectuels grecs, ils essayent d'établir des ponts de comparaison et de contraste entre le Dieu inconnu qu'ils adoraient et le véritable Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et ainsi de suite. Il ne faut pas que notre témoignage ressemble à la prescription de ce médecin de campagne d'autrefois qui prescrivait toujours la même chose à tous ses patients, quelle que soit la maladie, maux de tête, de ventre, etc. Il y avait un lavement pour tout le monde. Témoigner à un agriculteur, ce n'est pas la même chose que témoigner à un professeur d'université, n'est-ce pas? Témoigner à un occidental né dans une culture d'origine chrétienne n'est pas la même chose que témoigner une personne venant d'une culture hindoue ou musulmane. Savez-vous que notre quartier est rempli de musulmans? Que faisons-nous en tant qu'Église pour toucher les musulmans de notre quartier, de notre ville? L'apôtre Pierre nous parle aussi de la façon de rendre compte, et c'est par là que j'aimerais terminer, la façon de témoigner, c'est-à-dire le ton, l'attitude, l'atmosphère dans laquelle le témoignage doit se faire. Il dit avec respect, douceur, une conscience pure. Respect, douceur, conscience pure. Cela veut dire qu'il n'y a pas de place pour l'agressivité dans notre témoignage, pour la brutalité, pour l'arrogance. Le message de l'Évangile est un message de joie, d'espérance. Et ce message doit être présenté de manière, je dirais, attractive et affectueuse, avec gentillesse, avec amabilité, avec bienveillance. Jésus, lorsqu'il parlait aux gens de son époque, le faisait toujours avec amour et compassion. Nous sommes invités à être perçus comme des gens doux. Doux comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui était doux et humble de cœur. C'est intéressant de voir que cette expression « rendre compte » suggère une certaine soumission à l'autre, n'est-ce pas? Soumission à l'autre. C'est lui qui me demande des comptes à moi, le chrétien. Cela me place dans une situation, je dirais, d'humilité vis-à-vis de lui. C'est moi qui suis en devoir de lui rendre compte de mon espérance. Avec respect. Car l'autre, quelles que soient ses questions, ses convictions, ses doutes, son statut social, etc., est une créature de Dieu comme moi. Il n'y a pas de conversion forcée. Le salut est pour quiconque veut bien croire, veut bien accepter. Combien d'enfants de familles chrétiennes, n'est-ce pas, ont abandonné l'évangile à l'âge adulte parce que quand ils étaient petits, leurs parents les ont presque forcés à accepter l'évangile. La pression exercée par les parents a été telle qu'une fois adultes, ils ont abandonné l'évangile. Douceur et respect, même quand il s'agit de nos enfants, même quand il s'agit de nos conjoints ou quelqu'un de notre famille. Rendre compte de notre espérance, mais sans exagérer, sans ajouter des choses que nous n'avons pas vécues. Être authentique dans notre témoignage, dire comment et pourquoi Malgré ce que nous sommes et ce que nous vivons dans le monde, nous espérons encore. Pourquoi nous considérons Jésus-Christ notre espérance, l'espérance du monde? Et en ayant aussi l'humilité de dire que nous n'avons pas de réponse à toutes les questions qui se posent. Car la Bible elle-même dit qu'il y a des choses cachées qui appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. Celles qui sont révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants, dit la parole du Seigneur. Malgré nos questions, malgré nos doutes, malgré nos difficultés, nos ignorances, nous avons une espérance. Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre espérance. Et c'est de cela que nous devons témoigner. Nous le ferons par notre attachement au Seigneur, par une vie consacrée au Seigneur, par notre attachement à ceux qui nous entourent, à ceux avec qui nous travaillons, avec qui nous vivons, mais aussi grâce à la sagesse que le Seigneur, par son Saint-Esprit, nous donne chaque jour. N'ayez pas peur des gens et ne vous laissez pas troubler, mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint, il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications, mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience pure.